Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour, c'est Noël demain.
Oui, bonjour
Pascal.
En tout
cas, le réveillon.
Bonjour à tous. C'est un cadeau pour vous, justement. Les trains circuleront normalement le week-end du jour de l'an à la SNCF. L'ensemble des syndicats viennent de signer un accord avec la direction. Le préavis de grève est donc levé pour la semaine prochaine. Pour Noël, on le sait, ces discussions arrivent trop tard. Cette séquence change-t-elle le rapport de force entre direction, syndicat et collectif, ce fameux collectif de contrôleurs, cette base qui a pris les choses en main? Nous serons avec Bernard Vivier, spécialiste des mouvements sociaux. Le serpent doit arriver à Paris aujourd'hui. Le français Charles Sobhraj, auteur de plusieurs meurtres en Asie dans les années 70, a été libéré de sa prison au Népal. Pitoyable, indigne, vulgaire, pathétique sur notre antenne, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ne mâche pas ses mots envers les joueurs argentins, envers leur attitude après leur victoire dimanche face aux Français.
Dans cette édition également, cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région. C'est vous qui votez pour le grand gagnant sur le site RTL. Dans quelques minutes, visite guidée de celui d'Annecy.
Et bien sûr, nous parlons aussi table de Noël après les huîtres, le foie gras et les volailles. Nous finissons aujourd'hui par le dessert traditionnel qui est la bûche. Mais au fait, Noël en France en 2022, est-ce encore une fête religieuse? Les catholiques célèbrent-ils la naissance de Jésus comme avant? Nous poserons toutes les questions à notre invité, le père Jérémy Rigaud. Et puis la question du jour, repas de Noël, avez-vous réduit vos dépenses? On attend vos réponses sur le site rtl.fr. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, vous ne savez pas à quoi regarder en famille. Durant ces vacances, Stéphane Boutsock vous donnera les bons plans.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, 32-10 jusqu'à 14h30.
Et tandis que nous parlons de bombes cycloniques aux États-Unis en plein froid polaire, là aussi nous allons revenir sur cet épisode exceptionnel. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
En un mot, qu'est-ce qui nous attend ici cet après-midi?
Ah ben pas de froid pour nous, hein, tout va bien. On a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur, un peu trop, et surtout beaucoup de pluie encore aujourd'hui.
Merci Valérie.
RTL Midi.
Alors nous allons bien sûr revenir dans un instant sur cet accord trouvé à la SNCF entre direction et syndicat. Concrètement, on le sait, pour les voyageurs, cela veut dire pas de perturbation pour le week-end du jour de l'an. En revanche, pour Noël, le trafic, lui, reste perturbé. Bonjour Hermine Leclèche.
Bonjour.
Très tôt, vous vous êtes rendu gare Montparnasse pour RTL. Logiquement, on imagine que les voyageurs que vous avez rencontrés avaient le sourire, puisque eux étaient certains de partir.
Oui, beaucoup de familles pressées sur les quais ce midi. Les valises sont remplies à ras-bord. Flore, par exemple, voyage avec Susan, son petit chien, direction la Vendée pour des fêtes de Noël XXL.
On fait le 24 au soir, on va être 19, donc assez nombreux. Et puis le 25, le repas de Noël classique. À minuit, il y a les cadeaux, voilà.
19, c'est une grande famille.
Oui, beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles et tantes. J'étais ravie de voir que j'avais mon train, mais c'est un stress énorme sinon. Je ne sais pas comment j'aurais pu rentrer, voilà, mais très contente de retrouver ma famille.
Et donc de passer un dîner pas banal à 19. Alors j'ai rencontré aussi pas mal de voyageurs un peu tendus parce qu'ils craignent que leur train ne parte pas. Lydie a eu peur de rester à Paris jusqu'à son arrivée en gare.
On a fait la route dans l'angoisse. On n'avait pas de confirmation. Donc après, ils avaient dit qu'ils nous préviendraient 48 heures à l'avance. Donc j'ai pas eu ce mail-là. Au final, tout s'est bien passé. Donc là, ça va. On est soulagés. Il nous reste un TER à prendre. Et après, on arrive dans la famille. Donc ça va.
Et à l'arrivée, un repas en famille et du repos pour au moins une bonne semaine. Et pour le retour, la jeune femme a assuré ses arrières. Ce sera un trajet en voiture.
Et pourtant, merci hein, Rémine Leclèche pour RTL. Et pourtant, la bonne nouvelle du jour, Pascal.
Alléluia ! C'est un mot qui convient en cette période de Noël. La bonne nouvelle, effectivement, nous le disions en titre, le préavis de grève est levé. Miracle pour le week-end du jour de l'an.
Et oui, les discussions entre direction et syndicat, ces dernières heures, ont débouché sur un accord, Pierre Herbulot.
Oui, ouf. Clairement, c'est la réunion d'hier soir qui a tout changé. Oui. Les syndicats de cheminots reçus de 18h à 22h par Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. Il faut dire qu'il avait pris un coup de pression terrible du gouvernement. Alors, la direction a mis deux choses sur la table. Une majoration de 120 euros de la prime qui était déjà proposée aux contrôleurs. Elle passe de 600 à 720 euros et sera versée une fois par an. mais surtout des embauches, 200 contrôleurs supplémentaires, 40 spécialement pour les lignes de train les plus sensibles. Le sentiment d'insécurité et la surcharge de travail font partie des raisons de la colère des contrôleurs, notamment des grévistes. Les syndicats donc ont topé ce matin, la SNCF s'en félicite dans un communiqué avant d'ajouter « Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'ensemble des chefs de bord reprennent le travail, même si évidemment c'est trop tard pour ce week-end. »
Mais il n'y a pas revalorisation des salaires, alors que j'avais cru comprendre que la grève portait sur le salaire.
Les salaires en faisaient partie, il n'y a pas eu ces 100 euros nets que réclamait le collectif des grévistes. Ce sont les syndicats qui ont donné leur accord, pas le collectif des grévistes qui sera en grève grâce au préavis des syndicats. Mais vous savez qu'il y a, voilà, il y a deux parties, il y a les syndicats qui...
J'ai compris ça, voilà. Mais ils ne le seront plus, nous sommes d'accord dans 8 jours.
Absolument.
Pierre Herbulot du service économique et social de RTL. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même une délégation de professionnels de la pédiatrie. Des professionnels qui ne cessent d'alerter sur la crise du système de santé. L'objectif, c'est avant tout et surtout de les écouter, explique l'Élysée.
Tout à fait autre chose. 2 ans de prison ferme pour un faux avocat dans l'Allier.
Un homme qui, malgré sa robe, a fait... tiquer les magistrats en pleine audience, Anne Le Naf.
Oui, c'est en janvier dernier au tribunal de Cusset. Il défendait 2 victimes d'escroquerie et a d'emblée intrigué en faisant des selfies avec eux devant le palais de justice, intriguant encore plus à l'audience. Il n'a pas l'air de connaître grand-chose au droit. Il ne se présente pas, par exemple, à ses confrères, c'est l'usage. Et quand le tribunal lui demande ses conclusions, c'est un terme juridique, il ouvre de grands yeux. Alors pendant l'audience, le procureur se plonge dans Internet. Aucun avocat au nom de Sébastien Buisson n'est inscrit au barreau de Paris. Il n'a pas sa carte professionnelle. Bref, il est arrêté en pleine audience, scène peu commune, et incarcéré. Lors de son procès il y a quelques semaines, il a expliqué qu'il avait une passion dévorante pour le droit par la lecture et qu'il a trouvé ce métier magnifique. Ce faux avocat a plaidé un peu partout en France, à plusieurs reprises. C'est un escroc, en fait, condamné plusieurs fois, notamment pour avoir détourné, et là c'est beaucoup moins drôle, 260 000 euros de son association Les Nez Rouges, qui fait sourire les enfants hospitalisés. Il a pris 3 ans et demi de prison, il a fait appel.
Anne Le Naf du service police-justice de RTL. Le tueur en série français Charles Sobhraj, qui a sévi en Asie dans les années 70 et a inspiré la série Netflix Le Serpent, c'est son surnom, doit être transféré en France aujourd'hui. Âgé de 78 ans, il a été libéré de sa prison au Népal il y a quelques heures.
RTL Midi.
L'attitude des Argentins après leur victoire à la Coupe du Monde ne passe pas. Noël Le Graët a écrit à son homologue de la Fédération Argentine pour se plaindre du comportement de certains joueurs.
Oui, notamment celui du gardien Martinez qui a, entre autres, brandi une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé. La ministre des Sports, elle aussi, fustige la tenue, ou plutôt le manque de tenue des nouveaux champions du monde. Amélie Oudéa-Castéra était l'invitée d'Yves Calvi sur RTL ce matin.
Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire, je trouve, est pas digne du match qu'on a vu. Voilà. Donc clairement, des propos déplacés. C'est juste vulgaire, des gagnants inélégants. Nous, on est droit dans nos bottes. Et cet Emiliano Martinez, il n'est pas en train de se distinguer là dans notre affaire. Assez pathétique.
Amélie Oudéa-Castéra, qui hier a rencontré le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, condamné à 2 ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Il refuse toujours de démissionner, sauf que la ministre des Sports veut des garanties sur sa mise en retrait. La météo, Valérie Quintin, de la douceur, vous nous le disiez, mais aussi beaucoup de pluie.
Alors les pluies décalent, c'est quand même la bonne nouvelle, et du coup je vais pouvoir vous parler un petit peu de soleil. Bon, il n'y en a pas trop, hein. On en trouve principalement entre Toulouse et Nice, mais on va aussi avoir des éclaircies pas trop vilaines en Bretagne ou encore en Normandie. Le gros des pluies va se concentrer dans l'Est avec d'abondantes chutes de neige en montagne, ce qui implique un gros risque d'avalanche parce que la limite plus neige se situe aux alentours de 2000 mètres, évidemment, avec toute cette douceur. Attention en Corse, beaucoup de vent, des rafales jusqu'à 100 km/h en pointe sur le Cap Corse, 90 km/h dans le sud. Et puis pour les températures, 13 degrés attendus à Grenoble, une des températures les plus basses cet après-midi, 14 à Caen, à Abbeville, à La Rochelle, 15 pour Orléans et Strasbourg, 16 à Paris, 18 degrés à Nîmes et Montauban et même 22 degrés à Toulon.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi, un jour chez vous.
Vous le savez, si vous nous suivez depuis lundi, le grand concours du meilleur marché de Noël sur RTL, un vrai succès, déjà près de 20 000 votes. Pour l'instant, c'est le Barcarès qui a pris la tête dans les Pyrénées-Orientales. Mercredi ou jeudi, je crois qu'il a pris la tête, talonné par Kaisersberg en Alsace, qui avait été élu lundi et mardi en première place. Mais ce n'est pas joué, vous pouvez encore voter jusqu'à dimanche, forcément, inclus.
Et aujourd'hui, direction le marché d'Annecy en Haute-Savoie. C'est avec vous, Frédéric Perruche, bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal.
On vous suit pour la visite.
Et c'est difficile de le rater, ce marché de Noël, face au lac d'Annecy, à l'entrée de la vieille ville et de ses canaux. Une petite centaine de chalets en bois qui entourent l'église Saint-François de Sales. Une invitation au voyage, une ambiance de Noël incomparable qui fait le bonheur des locaux et des touristes nombreux en cette période de fête.
Très beau, les lumières, tout ça. Puis l'ambiance, quoi, du marché. Produits régionaux, en Haute-Savoie, hein, le reblochon, la tomme. Puis il y a des bonnes choses, monsieur. On est fiers de notre ville d'Annecy, c'est sûr. On l'appelle la petite Venise.
C'est superbe. Ah, mais c'est magnifique. C'est illuminé. Les canaux, on vient de faire un petit tour dans le vieux Annecy. Ça vaut le détour.
La décoration est toujours belle. Le soir, se retrouver, boire un coup tous ensemble. En plus, avec les années qu'on a, un peu difficiles, on a envie de tous se retrouver et de fêter un peu la vie, quoi, tout simplement.
Et côté produits régionaux, on se tourne vers quoi? Les fromages des alpages?
Alors effectivement, j'aurais pu vous proposer une raclette ou une tartiflette, voire des crozets de Savoie ou des Diovins blancs. Mais j'ai croisé un spécialiste du vin chaud, que dis-je, un spécialiste, un orfèvre, Franck, solide gaillard barbu, qui régale dans son chalet de la taverne de l'Arbre Noir des vins chauds peu ordinaire qui réchauffe les cœurs.
C'est un rouge châtaigne, du rouge, des épices, du miel, et parfumé à la châtaigne, ou un blanc figue, du blanc, des épices, du miel. Une macération à froid qui va durer quand même un certain temps. Donc moi, c'est des préparations que je prépare le soir ou le matin, on va dire. Il y a du boulot, oui.
Et qu'est-ce que vous mettez comme vin?
Pour le rouge, c'est un vin du sud-ouest, et pour le blanc, bah, c'est un... Je peux pas dire Marcette non plus, donc je peux pas pouvoir tout à
l'heure. Ah non, ne dites pas tout.
Ça réchauffe, ça fait du bien pour Noël. Ça passe bien.
Ça passe bien et même très bien.
Très très bon.
Qu'est-ce qu'il y a dedans?
De la figue. C'est pas banal. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est très bon.
Un petit goût, sympa.
Il a du vin rouge à la châtaigne qui est très bon.
Ah oui,
du vin chaud, on l'a goûté.
Vous avez fait toute la...
Juste goûté.
Il est très bon.
Et on sent les épices, mais pas trop chargé. Très bien. Je sens surtout la cannelle.
Voilà, il n'y a pas que de la cannelle à consommer avec modération, évidemment.
Et tout ça, Frédéric, cela en fait, selon vous, le plus beau marché de France?
Et oui, pour ces sympathiques produits régionaux, vous l'avez entendu, et pour le cadre, c'est une porte d'entrée, ce marché de Noël, pour découvrir la vieille ville d'Annecy, ses rues pavées, ses canaux, ses monuments mis en lumière, comme le palais de Lille, la tour du château sur les hauteurs, la tour de l'horloge ou Notre-Dame de Liesse. Et puis, il y a le lac, les montagnes enneigées. Ce n'est pas un marché de Noël, c'est la magie de Noël, tout simplement.
Merci Frédéric Perruche à Annecy pour RTL. Tous les marchés, on le rappelle, sont à retrouver sur notre site, sur notre appli RTL, avec des reportages, des photos, des vidéos. Le vainqueur sera connu lundi prochain.
Dans un instant, nous évoquons l'église de Rome. Noël est-elle encore une fête chrétienne? Nous en parlons avec le père Jérémy Rigaud, qui est curé de la paroisse Notre-Dame des Foyers dans le 19e arrondissement de Paris.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Praud et Agnès Bonfillon.
Du Barbara Hendrix, s'il vous plaît. Demain, on le sait, c'est le réveillon de Noël. Dimanche, le jour J. On a pris l'habitude de ces réunions de famille, des échanges de cadeaux, mais est-ce que la fête religieuse existe encore? Notre invité dans RTL Midi, le père Jérémy Rigaud, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes curé à la paroisse Notre-Dame des Foyers dans le 19e arrondissement de Paris. Oui. 70% des Français se déclaraient catholiques en 1981. Ils ne sont plus que 32% aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté qu'il y avait moins de Français dans les églises, à Noël notamment?
J'avoue que non. Enfin, chaque année, on est toujours émerveillé du nombre de personnes qui viennent. Ça a été flagrant déjà après les attentats qu'il y a eu à Paris. Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus. La période du Covid, au moment où c'était possible de se rassembler, beaucoup de gens sont venus et revenus. Et là, on espère aussi que notre église sera pleine. Pour être honnête, c'est mon premier Noël dans cette paroisse. Je viens d'arriver en septembre dans cette nouvelle église pour moi. et on prépare ça avec beaucoup de cœur. On sent qu'il y a des gens qui viennent à Paris en vacances, retrouver leurs proches et qui nous rejoindront pour les célébrations. Donc sur le terrain, moi, je vois pas trop de baisse de fréquentation, mais du monde. Ouais.
Monsieur l'abbé, l'église Notre-Dame des Foyers, la messe de minuit sera-t-elle à 19h comme elle l'est à peu près partout en France, que je regrette, ou sera-t-elle chez vous à minuit précisément ?
Eh oui, bonne question. Alors j'ai choisi qu'elle soit à 19h. Parce qu'on a une petite communauté, donc on a une seule messe pour la veille de Noël, pour la messe de la nuit. Et c'est plus rassembleur d'avoir une messe un peu tôt pour les familles, pour les personnes âgées.
Pour les enfants aussi.
Pour les enfants, ouais, on a une veillée pour les enfants. Ils ont préparé le spectacle depuis plusieurs semaines. Ils ont encore répété hier après-midi, c'était chouette.
Mais elle ne sera pas à minuit, en fait, il n'y a plus de messe de minuit à minuit.
Si, ma paroisse d'avant, Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Maître Jourdain, on avait une messe à minuit.
Il y en a peu, alors que jadis, évidemment, nos grands-parents nous racontent qu'il n'y avait pas de messe de minuit à 19h.
Si vous venez demain à minuit, je fais une messe juste pour vous, promis. Ouais,
Ah, c'est tentant.
C'est tentant, non ? À la bougie.
La messe de Noël est-elle particulière en termes de préparation pour vous ?
Oui, moi je suis au café Red Bull depuis ce matin, là, tout le temps. Beaucoup de travail, beaucoup de décoration. On a la chance d'avoir des bénévoles très actifs. On met beaucoup de soin à cette messe pour les chants, pour la décoration, pour l'accueil, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent une fois par an. Et on veut que ce soit un beau moment, qu'ils retrouvent aussi le charme de la messe de Noël. Donc oui, pas mal de préparation pour que tout soit beau et surtout accueillant largement. Oui.
Bon, je rappelle que tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Demain, sont les catholiques qui, évidemment, célèbrent la naissance de Jésus. Est-ce que vous avez le sentiment de voir dans vos églises des gens qui ne viennent pas forcément pour des raisons religieuses, mais qui viennent pour des raisons culturelles, à un moment où parfois l'identité française est différente, disons-le, de ce qu'elle était il y a 40 ou 50 ans, et qu'ils retrouvent dans l'église de Rome quelque chose qui perdure et qui est la tradition, une tradition française.
Oui, tout à fait. Je suis partie d'une équipe de rugby dans mon quartier, et on a fait notre soirée de Noël du club la semaine dernière. On partageait ce qu'on allait faire pendant les vacances. Et franchement, j'étais surpris d'entendre autant de copains de mon équipe qui allaient participer à la messe en famille lorsqu'ils repartent en Bretagne, en Alsace, dans le Jura. Et alors qu'ils viennent jamais à la messe, sauf si on a une messe pour le club. Mais il y a d'abord l'esprit de famille. Et puis je pense qu'il y a une lumière quand même. J'espère en tout
c'était
cas.
C'était pas vraiment ma question.
Chose.
Moi, c'était la permanence. Allez-y. De quelque chose, il y a beaucoup de choses qui vacillent entre guillemets dans l'identité française, et il faut toujours utiliser ce mot avec beaucoup de prudence, mais que l'église de Rome est une permanence dans cette identité.
Intéressant. Ça pousse à réflexion, on n'aura pas 6 minutes pour que je réfléchisse, prendre un peu de recul, mais j'aime bien votre idée. Mais là où je résiste un peu, c'est que je sens en même temps que l'église de Rome, comme vous l'appelez, son image est quand même un peu salie, et donc les gens perdent parfois confiance. Mais venir à la messe, retrouver la présence, toucher Dieu, être consolé, se sentir aimé, ça c'est une permanence. Donc je pense que ce qu'est la permanence, c'est le Christ. L'église, on essaie d'être au service de ce contact avec Dieu. Bonne question, j'avoue que je vais réfléchir.
Et votre réponse était un peu celle d'un jésuite, mais c'est à la mode entre le pape François et le président de la République, si vous me permettez, monsieur l'abbé.
J'ai été formé par les jésuites.
Mais écoutez, j'allais mettre, ayant fréquenté les institutions jésuites, des jésuites, j'étais persuadé, en vous écoutant, je me disais, c'est un jésuite.
Et vous, père Jérémy Rigaud, est-ce que vous déplorez l'aspect commercial de Noël qui peut prendre le dessus sur l'aspect religieux dans notre société?
Oui, c'est un débat traditionnel. J'avoue que je suis dans un quartier très simple, très modeste, avec une communauté de gens qui sont très simples, très modestes. Donc cet aspect commercial dans mon quartier, dans ma paroisse, n'est pas du tout prégnant. J'étais dans des paroisses plus bourgeoises, plus riches, où ça, on essayait de travailler un peu le cœur des fidèles pour mettre Noël au centre. Moi, j'ai des personnes ici qui m'édifient par leur foi. Des personnes en grande souffrance, grande précarité, grande inquiétude en cette fin d'année, comme beaucoup de Français, ou voire tous les Français. Et donc là, cette année, on a un Noël, très humble, très pauvre. Et on est vraiment au cœur du message. Et Donc le débat en général, je suis d'accord avec vous, il est peut-être éternel, mais cette année, on vit un Noël dans mon quartier très originel, très je trouve. C'est très beau.
Bon, bah, écoutez, on vous dit rendez-vous demain, donc à minuit. On a bien compris que vous nous invitiez. Merci, Père Jérémy Rigaud, d'avoir été.
Je tout serai prêt.
L'invité de RTL Midi, on vous souhaite de bonnes fêtes.
Merci Monsieur l'Abbé. Dans un instant, RTL Midi à votre vie. On va passer à quelque chose de plus prosaïque, de plus païen peut-être. Le dessert avec la traditionnelle bûche de Noël que l'on va goûter avec un chef pâtissier, meilleur ouvrier de France. A tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Il se passe quelque chose dans notre studio parce qu'on n'est plus du tout concentré. C'est la veille de Noël, mais il y a de quoi parce que qu'est-ce qui se passe?
Mais on va parler bûche et du coup notre invité est arrivé les bras chargés. Nous sommes avec un chef pâtissier meilleur ouvrier de France. C'est Nicolas Bernardet qui nous amène toutes ces ces bûches, ces chocolats, même cette galette des rois. Bonjour à vous Nicolas Bernardet en tout cas.
Bonjour à vous, merci de m'avoir invité.
Ah bah écoutez,
non, mais
on est content,
vous
reviendrez
quand vous voulez. Vous pouvez venir tous les jours.
Avec grand plaisir.
Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui encore la bûche reste l'incontournable de nos repas de Noël?
Non, laissez-la là, regardez, c'est alors, bon. Voilà, à côté de moi, c'est parfait.
Alors, prend une bûche. Tout à fait, la bûche c'est tout à fait un repas de Noël. On peut pas faire un repas de Noël sans une bûche. Tout d'abord, la bûche c'est que avant nous mettions la plus belle bûche de bois qui devait brûler toute la nuit de Noël. Donc maintenant, il n'y a plus de cheminée et donc les gens mangent la bûche de Noël. C'était ça la symbolique de la bûche de Noël.
Et ça reste quelque chose d'incontournable.
Ça reste tout à fait incontournable.
Alors, il y a un dilemme bûche glacée ou bûche pâtissière. Qu'est-ce que réclament le plus les clients ?
Les clients, ils réclament tout d'abord de la qualité, ils réclament du beau, ils réclament du bon, et ils réclament aussi de savoir où ça a été fabriqué.
Non mais c'est 50-50 ou on est plus bûche pâtissière?
On est plus sur des bûches pâtissières que sur des bûches glacées.
Alors justement, parce que les bûches pâtissières, on avait ce débat avant que vous arriviez sur le côté... Parfois, la crème pâtissière peut être un petit peu lourde, surtout après un repas de Noël bien chargé.
Alors, c'est ça. Les gens ont peur de la bûche parce que c'est trop lourd. Apparemment, les gens ont peur de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, on a travaillé sur des bûches crème au beurre. Et puis ensuite, les pâtissiers ont travaillé avec de la matière grasse. Et donc, c'est devenu très gras et pas bon. Maintenant, si vous utilisez des matières premières de qualité, si vous utilisez des belles choses, des bons œufs, du bon beurre, des bons chocolats, vous avez quelque chose qui est bon. C'est comme un gâteau. Donc, que ça soit une bûche qui est une forme de bûche ou un gâteau, pour moi, c'est la même chose.
Ça
vous
reste
voyez.
Léger.
Ça reste léger.
Vous pouvez nous dire ce que vous nous avez amené, parce qu'elles sont magnifiques.
Je vous ai apporté 3 bûches de notre collection de cette année. On travaille sur la bûche Gatsby, la bûche Cotton Club. Et donc, nous sommes sur un citron noisette, un chocolat vanille caramel. Et là, la dernière, c'est passion framboise.
Donc, il y a la bûche Gatsby, la bûche Cotton Club, et celle-là, elle s'appelle comment? C'est la bûche.
Elle s'appelle.
Il y en a tellement.
Et puis, vous savez, nous travaillons sur ces bûches de collection, sur ces bûches de collection qui sont gourmandes.
Mais ça, c'est des innovations. Par exemple, elles n'existaient pas l'année dernière.
Non, tous les ans, on crée quelque chose de nouveau. Et là, on est sur de l'art nouveau, sur l'art déco. Et on a quelque chose comme ça qui a un peu de rouge, un peu de caramel, un peu de
Alors je pense à ceux, et tous les jours je l'ai dit cette semaine, à ceux qui malheureusement n'ont pas forcément les moyens de faire célébrer Noël avec un budget important. Ces bûches-là valent un certain prix, c'est 40-50 euros?
On est sur 45 euros pour une bûche de 6-8 personnes.
C'est pas donné, convenons-en.
Alors, c'est peut-être pas donné.
Parce que c'est le dessert, ça veut dire qu'avant il y a eu plat de résistance, avant il y a eu entrée, donc c'est pas donné.
Alors c'est peut-être pas donné, mais écoutez, quand vous avez, je vous dis, du chocolat de qualité, quand vous avez du caramel, quand vous avez les équipes à payer, les
non mais j'en suis convaincu, mais certaines gens n'ont pas les moyens, c'est ce que je voulais dire.
Alors dans ces cas-là, si moi ça m'arrive de faire des gâteaux, on peut très bien aussi faire une bûche roulée à la maison, se faire un gâteau sous forme de voilà.
C'est facile à faire une bûche à la maison.
C'est facile.
Entre guillemets, est-ce que tout le monde peut alors avec de la passion, c'est évidemment.
Avec de la passion, nous début décembre, nous avons donné des cours de bûche de Noël. Donc les gens pouvaient prendre des cours de bûches de Noël pour les réaliser chez eux ensuite pour le 24 décembre.
Alors je sais qu'on est à la radio, mais il faudrait quand même qu'on goûte ces bûches pour donner nous-mêmes notre avis.
Votre avis.
Donc vous nous avez dit que c'est citron.
Citron-noisette.
Citron-noisette et
chocolat-caramel.
Chocolat-caramel.
Et la dernière, c'est passion-framboise.
Alors, on peut des trois, merci.
Qu'est-ce que. Vous aimez le mélange?
Ah bah moi alors là je vais toutes les goûter.
Agnès, elle peut mélanger. Est-ce qu'il faut mélanger ou est-ce que les goûts au contraire vont s'annuler?
Disons que nous avons travaillé à chaque fois les parfums pour qu'ils soient le mieux en harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pour ma part la pâtisserie, le goût c'est comme un tableau. Il faut pas tout mélanger toutes les couleurs en même temps.
Ah oui,
sinon
j'ai l'impression.
Non mais j'allais pas les manger tout en même temps.
Si vous avez par exemple le citron noisette, si ça marie bien ensemble, vous avez un croustillant de noisette, vous avez du citron de menton.
Du citron de menton. Pourquoi il est meilleur à menton qu'ailleurs?
Citron de menton, c'est la référence suprême.
Ah, c'est la référence suprême, le citron de menton.
Voilà. Après, chocolat caramel, nous sommes avec du chocolat du Cameroun, où j'ai été au mois de septembre au Cameroun.
Vous êtes allé choisir le chocolat du Cameroun?
Oui, c'est ça, tout à fait. On a été au Cameroun pour voir le chocolat. Nous sommes chocolatiers engagés, donc nous achetons plus cher le chocolat pour pouvoir donner à manger aux personnes qui cultivent le chocolat, aux producteurs. Il y a une éthique, donc on travaille vraiment avec l'éthique et aussi pour que toutes ces bûches soient magnifiques et elles soient belles. Moi, je remercie en centuple ma magnifique équipe parce que...
Vous n'êtes qu'à Paris ?
Je suis qu'à Paris. Je ne suis pas à Paris, je suis à la Garenne-Colombes, aux deux places de la Liberté.
Donc ceux qui sont en train de nous écouter en région, ils n'ont pas forcément accès à vos produits. Il y a un service internet.
Alors il y a un système internet. Vous pouvez nous retrouver sur Nicolas Bernardet, sur le système, sur les réseaux sociaux, bien sûr.
Et là, ça peut voyager. Mais pas la bûche. La bûche, elle voyage pas.
Ah, la bûche, elle voyage.
Le chocolat voyage.
Le chocolat voyage. Les gourmandises voyagent. La bûche, elle reste dans notre quartier.
Et à quelle époque de l'année vous commencez à réfléchir à vos collections? Par exemple, quand vous allez au Cameroun en septembre, vous savez déjà quel chocolat vous voulez pour faire telle bûche?
C'est-à-dire que nous, on a commencé à travailler cette collection, on a terminé Pâques et on a commencé tout de suite à travailler pour Noël, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler les designs, on a commencé à travailler pour tout
vous
ça.
Vous parlez, mais moi je voudrais manger.
Ah, vous voulez goûter?
Bah oui, je voudrais goûter quand même. Parce que,
vous voulez goûter à quoi?
Bah, d'abord, Valérie, vous voulez... Qu'est-ce que vous préférez, Valérie?
Peut-être la noisette, moi.
Noisette. Ah ouais. Là, je pense que quand vous allez apporter ça au Hellfest, vous allez faire, vous allez faire un malheur.
Vous avez raison sur Clisson, je pense que vous
allez faire un malheur quand vous allez apporter ça à vos amis du Hellfest. Croyez-moi, ils vont être un peu surpris. Bon, on est en train de déborder odieusement. Donc, Damien, c'est le moment de laisser passer une pause, vous pensez, pendant qu'on va déjeuner. Donc, on va remercier Monsieur Bernardet grandement. Vraiment, merci beaucoup.
Ah oui, merci.
Avec grand plaisir, m'avoir invité.
Et puis, merci. On marque une pause. Vous restez avec nous si vous voulez. Les infos, évidemment, d'Agnès. Et on goûte la bûche. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Alors, Monsieur Bernardet, restez quelques instants avec nous. Pour tout vous dire, on est en train de faire des photos dans le studio. On vous remercie. Alors, vous avez fait l'unanimité, vraiment. Et j'ai jamais vu tant de monde dans ce studio, du coup. Toute la rédaction en train de venir.
On est aimé d'un coup.
Exactement, pour venir goûter votre bûche. Ce qui nous permet de dire bonjour à tous si vous nous rejoignez. Et de vous dire merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Figurez-vous qu'il est 12h31.
Midi. Le 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
L'heure de votre grande édition, Agnès.
Plusieurs blessés ce matin à Paris, on l'apprend à l'instant, après qu'un homme a ouvert le feu dans le 10e arrondissement de la capitale. Cet homme a été interpellé, on y revient dans quelques secondes. Accord trouvé à la SNCF, si vous aviez prévu de voyager le week-end prochain, le préavis de grève est levé. Les quatre syndicats ont signé l'accord proposé par la direction. Mais le collectif, à l'origine du mouvement, n'a pas dit son dernier mot. On y revient à 12h30. 12h40 avec Bernard Vivier, spécialiste des mouvements sociaux. Oui, les États-Unis sont habitués au froid, à la neige à cette époque, mais une bombe cyclonique, c'est beaucoup plus rare. Ce terme employé par les spécialistes a pour conséquence un froid polaire et de nombreuses perturbations à tel point que les autorités appellent à une grande prudence. La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, repas de Noël, avez-vous réduit vos dépenses ?
À partir de 13h, bien sûr, dans les auditeurs ont la parole. Le 32-10 pour dialoguer. Vous souriez parce que j'ai un petit peu encore de bûche, pardonnez-moi, que ça s'entend un peu. On pourra parler de la grève et on pourra parler justement de Noël.
Et puis votre rendez-vous culture comme tous les jours, LVT midi à 12h50 avec une sélection de bons films à voir en famille pour ces prochains jours. La météo, ce sera à la fin du journal, mais déjà Valérie Quintin, un petit indice.
De la douceur jusqu'à 20 degrés attendus à Tarbes cet après-midi et même 22 degrés dans le Var, mais on a de la pluie encore une fois, notamment dans l'Est.
Jusqu'à 13h, RTL midi.
On l'a donc appris il y a quelques minutes, un homme a ouvert le feu dans le centre de Paris.
Et vous êtes avec nous Cindy Hubert pour nous en dire plus, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs personnes ont été blessées, le tireur lui a été interpellé.
Oui, des coups de feu ont été entendus un peu avant midi, rue d'Enghien, c'est dans le 10e arrondissement. On est en plein centre de Paris, à quelques minutes de la place de la République. Ce que l'on sait, c'est qu'un centre culturel kurde se trouve à proximité. Selon un témoin que RTL vient de joindre, des tirs auraient également eu lieu près d'un salon de coiffure. Il y a plusieurs blessés, dont plusieurs blessés graves. Le bilan est toujours évolutif à l'heure où je vous parle. Un homme d'une soixantaine d'années a effectivement été interpellé. Alors il est encore trop tôt pour se prononcer sur les motivations du tireur, mais la préfecture de police demande d'éviter le secteur pour l'instant.
Merci Cindy Hubert. Évidemment, vous revenez dès que vous avez d'autres informations sur ces tirs donc en plein centre de Paris.
RTL Midi.
Le préavis de grève est levé pour le week-end du jour de l'an à la SNCF.
Les discussions entre direction et syndicats ces dernières heures ont débouché sur un accord, vous nous le disiez Pierre Herbulot, au prix peut-être de fortes dissensions en interne.
Oui, il y a de l'eau dans le gaz entre les syndicats et le collectif des contrôleurs, ce groupe Facebook qui se définit comme apolitique et affilié à aucun syndicat. Ce sont eux qui vont faire la grève ce week-end avec en quelque sorte la bénédiction là, pour le coup, des syndicats et surtout de leur préavis. Sauf que depuis hier, tout a changé. Sudrail, la CFDT et les autres, reçus par la direction de la SNCF, n'ont pas jugé bon de tenir informé le collectif des contrôleurs, d'après l'un de ses membres. C'est en AG à 11h30 pour discuter de la suite du mouvement qu'il découvre ce matin sur des écrans de télé qu'un accord a été trouvé. C'est une trahison, voilà ce que vient de me dire au téléphone ce membre de ce collectif dans le nord de la France. Les syndicats sous pression ont court-circuité leur base. Ça va se payer aux prochaines élections internes, me disait cette source. Là, le collectif est déjà en train de réfléchir à la suite à donner au mouvement. La grève nationale, impossible donc, puisqu'ils ont besoin des syndicats pour ça. Mais visiblement, certains préavis en région n'ont pas été levés. Ils pourraient donc localement y avoir malgré tout des perturbations le week-end prochain.
Et l'information se fait évidemment en direct. Lorsque vous êtes intervenu la première fois tout à l'heure, Pierre Herbulot, vous n'étiez pas dans cette couleur-là, si j'ose dire. Et là, pour ceux qui nous écoutent, vous leur dites que week-end du Nouvel An n'est pas assuré à 100%.
Ça dépend des régions. C'est la différence, c'est le problème avec le fait d'avoir les syndicats d'un côté et ce collectif.
J'entends bien, mais les choses vont peut-être évoluer encore ces prochaines heures.
Absolument.
Donc on va être assez prudent forcément sur cette information.
En tout cas, la Première ministre Elisabeth Borne, elle salue sur Twitter l'esprit de responsabilité qui a prévalu à la signature de cet accord. Juste après ce journal, nous tenterons d'en savoir plus sur ce collectif de contrôleurs qui met la pression, on le voit, et qui change peut-être la donne au sein de la SNCF. Est-ce qu'en termes d'organisation, les cartes sont redistribuées ? On le demandera à notre spécialiste des mouvements sociaux. Emmanuel Macron, lui, reçoit les professionnels de la pédiatrie à l'Élysée en ce moment même. Ces derniers ont également des revendications et ce n'est pas la première fois qu'ils tentent d'alerter sur l'état du système hospitalier. Un système encore plus fragilisé que d'habitude cet hiver par l'épidémie de bronchiolite. Pour le président de la République, cela fait partie des derniers rendez-vous de l'année car l'exécutif s'apprête également à partir en vacances. Enfin, vacances, William Galibert, tout est relatif. Le mot d'ordre reste le même. Noël ou pas,
nous sommes sur le pont.
Oui, sur le pont ou sur le canapé devant un bon film, on ne sera pas toujours là pour vérifier tout ça. L'Élysée ne communique pas officiellement sur les vacances présidentielles, mais Emmanuel Macron a ses habitudes à Brégançon. Il y arrivera ce soir ou demain et il reviendra à Paris le 31 pour les vœux. Et là-bas, il y a tout ce qu'il faut pour travailler, y compris des connexions sécurisées pour joindre ses homologues étrangers. Elisabeth Borne, elle, s'accordera 48 heures loin de Paris, en Normandie normalement, et ses collaborateurs sont ravis qu'elle ait déjà calé plusieurs réunions la semaine prochaine. Normandie aussi pour le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, chez lui à Vernon, avant de repartir dès mardi prochain auprès des troupes françaises. Bruno Le Maire lui aura un peu plus de temps en famille, dans sa maison du Pays Basque. Il rentrera le 2 janvier. Puis il y en a un qui a eu de belles galères, c'est le ministre des Transports, Clément Beaune. Son train pour Arles a été supprimé, c'est pas une blague, et peut-être qu'il sera réconforté par les bonnes nouvelles qui restent donc à confirmer pour le
à Paris,
week-end du 31.
Clément
mais
Beaune,
de toute façon, il va avoir du travail là, pendant cette semaine.
Je ne sais pas s'il serait mieux à Paris. D'abord, s'il part pour Arles, il aura du mal à revenir. Donc, il faut mieux qu'il reste à Paris.
Voilà, voilà. William Galibert du service politique de RTL. Merci, William.
Et pendant ce temps, les États-Unis subissent une grosse tempête, une bombe cyclonique, disent les spécialistes.
Ah oui, un froid polaire qui pousse certains États à déclarer l'état d'urgence et qui prive de très, très nombreux Américains de transport en plein week-end de Noël. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Donc, situation très chaotique, hein, outre-Atlantique.
Oui, les températures vont descendre jusqu'à moins 55 degrés par endroit. Les Américains parlent d'une tempête exceptionnelle qui va parcourir tout le pays. 200 millions d'Américains pourraient être impactés. Et c'est dans les prochaines heures, là, quand le jour se lève de l'autre côté de l'Atlantique, que la tempête devrait s'intensifier. Et les commentateurs, vous le disiez, parlent d'une bombe cyclonique. En fait, c'est quand les températures vont énormément baisser. C'est en très peu de temps, comme l'explique ce présentateur météo sur la chaîne NBC.
C'est là qu'on aura les vents les plus violents et les coupures de courant. C'est pas vraiment des chutes de neige, c'est plutôt du blizzard. Un vent glacial qui va amener de l'air froid jusqu'au sud du pays. Et demain, les températures glaciales vont atteindre le nord-est et même le centre de la Floride.
113 millions d'Américains sont attendus ces prochains jours sur les routes, dans les trains, les airs pour fêter les fêtes de fin d'année. Déjà beaucoup d'annulations sur les avions. Sur les routes, il est demandé aux Américains de différer leur départ car le blizzard rend la visibilité quasi nulle.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Je me tourne vers vous, Valérie Quintin. Le terme bombe cyclonique, ce n'est pas fréquent. Hein. C'est à ce point exceptionnel ce qui se passe actuellement aux États-Unis.
Oui, alors ce terme, c'est justement parce que c'est rapide et violent, très violent. Le mercure chute brutalement de 40 jusqu'à 43 degrés en moins d'une heure. En fait, ça a été le cas à Cheyenne dans le Wyoming. Il faisait moins 13 degrés, ce qui était déjà bien froid. Et c'est descendu à moins 43 degrés en l'espace de 10 minutes. Donc c'est la rapidité, la puissance de tout cela. La neige, pour l'instant, va plutôt commencer à partir vers le Canada. Il neige pratiquement plus, même si par endroits il y a eu plus de 30 cm de neige. Il y a de brusques rafales de vent, un fort blizzard et donc des températures qui continuent de baisser. On a relevé moins 37 degrés à Glasgow dans le Kentucky, moins 28 degrés à Billings dans le Montana. Et cette tempête va durer au moins jusqu'à dimanche soir. Ça pourrait commencer à se calmer dimanche.
Et je pense aux Français qui devaient partir pour New York ou qui sont peut-être à New York. New York est un peu épargné. J'ai vu qu'il y avait moins 10 degrés
oui,
à
voilà,
New York.
Tout ce qui est près des côtes, toutes les c'est un peu comme ici quand on a des vagues de froid. Dans l'intérieur du pays, c'est très très froid et sur les côtes, c'est toujours un petit peu plus doux forcément avec l'océan. Et donc moins 10 degrés à New York en plein hiver, franchement, c'est normal. Tout va bien.
Et pendant ce temps, chez nous, eh ben, Noël au balcon, ça va être le cas pour la plupart d'entre nous cette année. En cette veille de réveillon, les températures, vous nous le disiez aussi, hein, Valérie, il y a quelques instants, sont très douces, trop douces peut-être pour la saison. Jusqu'à 21 degrés à Perpignan et Bayonne cet après-midi, comme un petit décalage hein, avec le calendrier. Chez vous aussi, il fait très bon, Denis Grangeau. Vous trouvez à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon.
Oui, je suis sur la terrasse d'une jolie cabane ostréicole avec le ciel un petit peu gris, mais il fait 15 degrés, donc j'ai carrément posé mon blouson sur ma chaise. Et donc j'ai rencontré Fabrice, le patron des lieux.
Oui, ben voilà, on met en place le quai, la dégustation sur le quai. Tout le monde va consommer, et puis qu'on fait plaisir aussi. C'est pas que le côté gagner de l'argent, c'est le côté... faire plaisir, amener des belles huîtres sur les tables, l'émulation des fêtes, fait voilà quoi, se donner le moral de toute cette année qui nous l'a enlevé quoi.
Alors pas mal de monde ici sur le port ostréicole, des gens ravis avec le sourire, avec cette météo vraiment clémente.
Ah ben oui, c'est parfait là. Quoi que le Père Noël sera pas content, il va avoir chaud avec sa tenue.
C'est ce que je disais à mon époux. Je voudrais bien vivre là. J'aime beaucoup, voilà.
Autour de nous, il y a quand même des guirlandes, des sapins,
ouais,
mais il fait doux,
ouais, c'est le printemps. Bien. Voilà, il fait doux. Il y a un petit peu de vent malgré tout. mais ça fait partie du décor.
Un décor idéal pour écouter la fin de votre journal. Alors Fabrice, qu'est-ce que je peux manger, picorer en écoutant donc la fin du journal d'RTL?
Tu peux déguster quelques huîtres, des crevettes, des bulots, des bigorneaux, on a quelques crevettes grises. Et puis bien sûr, un peu de tariqué en blanc là. Ça ira très bien avec.
Ça me paraît bien aussi.
Denis Grandjou pour RTL sur le bassin d'Arcachon. Valérie pour la météo. Cet après-midi, de la pluie, mais on a entendu, hein, il fait doux.
Alors oui, on a beaucoup de douceur. On a 20 degrés attendus à Tarbes, 19 à Bordeaux, 18 degrés à Marseille, 17 à Clermont-Ferrand, 16 degrés dans la capitale, 14 pour Alençon ou encore Mulhouse, avec des pluies concentrées principalement sur les deux tiers nord du pays, mais surtout vers l'est. Elles commencent à se décaler. D'ailleurs, la Bretagne et la Normandie récupèrent déjà quelques petites éclaircies. Bon, c'est pas fameux, il y a quand même beaucoup de nuages, mais tant pis, c'est toujours ça de pris. Et puis entre Toulouse et Nice, là, tout va bien. Le ciel est parfaitement bien dégagé, ainsi qu'en Corse. Mais attention, en Corse, il y a beaucoup de vent. Les chutes de neige en montagne seront assez conséquente au-delà de 2000 mètres, gros risque d'avalanche donc dans les Alpes pour aujourd'hui et d'ailleurs pour tout le week-end.
Merci Valérie, je vous rappelle cette information. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessées après des coups de feu qui ont éclaté à la mi-journée dans le 10e arrondissement de Paris. Le tireur présumé, âgé d'une soixantaine d'années, a été interpellé. On ne connaît pas encore ses motivations. On y revient évidemment dans la suite de cette édition.
C'est une information importante et évidemment que nous avons appris au cours de ce journal et qui a modifié l'humeur bien évidemment de ce 12-13, et on ne peut avoir que de la compassion pour ces familles qui sont endeuillées à la veille de Noël. On va parler de la SNCF dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
La mobilisation prévue ce week-end qui menace le réveillon de la Saint-Sylvestre à la SNCF, hein, on le disait, d'accord. Syndicats et direction ont signé un accord, mais pour l'instant, quelle sera la réaction du collectif, ce collectif de contrôleurs finalement qui semble assez incontrôlable. Bonjour Bernard Vivier.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. On voulait vous demander un petit peu ce que vous en pensez de ce collectif qui semble un petit peu déborder les organisations traditionnelles.
Oui, ce collectif n'est pas un phénomène nouveau. On avait à la fin des années 1980, et notamment dans les hôpitaux, la SNCF, des coordinations. C'est le même phénomène, c'est-à-dire des structures qui naissent en dehors des organisations syndicales, avec aujourd'hui, en 2022, un outil fabuleux entre leurs mains, c'est-à-dire les réseaux sociaux.
Mais est-ce que là, on pourrait, quand vous me parlez de réseaux sociaux, quand vous me parlez de base, moi, je pense immédiatement aux gilets jaunes. Est-ce que l'on peut faire un parallèle ?
Difficilement, parce que l'outil rapproche les deux démarches, c'est-à-dire les gilets jaunes ont beaucoup travaillé sur l'idée de, avec l'outil réseaux sociaux et contre les organisations syndicales. Il en va de même pour ce collectif, mais ce sont des revendications très catégorielles, très corporatives, très corporatistes même, liées au métier de contrôleur, de chef de bord. Donc l'avenir de ce collectif, il y a trois voies possibles. Ou ils deviennent un syndicat, ça semble hors de portée, ou ils disparaissent peu à peu, ou, formule probablement plus efficace pour eux et pour les syndicats, ils s'intègrent à une organisation syndicale, et les organisations syndicales finissent, comme on dit dans le jargon syndical, par coiffer le mouvement, c'est-à-dire entrer dans le dispositif et en prendre le contrôle.
Ben oui, mais c'est pour ça que chacun fait le parallèle avec les gilets jaunes, parce que vous dites que c'est différent, mais on a quand même le sentiment, c'est quoi les gilets jaunes? C'est pas de leader? Et c'est pas de parole publique. Donc c'est très difficile, évidemment, de... En tout cas, pas de parole publique unique. Une multitude de paroles publiques éclatées. Tous ceux qui prenaient la parole avaient parfois même un langage différent. Et là, on retrouve ça. Alors là, ils ne s'expriment pas, mais il n'y a pas de leader. Donc tu sais pas qui tu as en face et tu as le sentiment d'avoir des gens qui peuvent même être très différents avec des revendications différentes.
Oui, les deux phénomènes sont proches mais pas assimilables, parce que les gilets jaunes étaient violemment anti-syndicaux, anti-partis, anti-médias également. Là, ce sont des revendications professionnelles liées à un métier précis et qui, on le voit en ce moment, est en train d'être absorbé par le phénomène syndical. Et les syndicats dans les entreprises, notamment les SNCF, sont très puissants. Le mouvement des gilets jaunes, il était hors des entreprises, il était dans les territoires, dans la société française.
Bernard Vivier, selon vous, ce collectif de contrôleurs peut-il tenir tête à la direction de la SNCF et aux syndicats? Parce qu'on le rappelle, un accord a été trouvé, a été signé à midi.
Alors, le phénomène des contrôleurs ne peut pas tenir tête longtemps face aux syndicats, tout simplement parce que faire grève à la SNCF nécessite d'être abrité par un préavis de grève et seuls les syndicats peuvent le faire. Et concernant la direction, évidemment, ils ont des moyens de pression, puisque sans contrôleur, certains trains ne peuvent pas circuler. Mais là, il y a actuellement un jeu objectif entre direction et syndicats pour que les syndicats reprennent en main le mouvement et soient les seuls interlocuteurs de la direction.
Et est-ce que cette forme de contestation pourrait avoir lieu dans d'autres entreprises, dans du public, dans du privé ?
Oui, ça pourrait se produire parce que les syndicats aujourd'hui perdent du terrain, ou plus exactement, perdent de plus en plus le contact avec la base, ne jouent pas leur travail de proximité, de prise en compte des aspirations sur le terrain, et c'est un phénomène qui peut, disons-le malheureusement, se développer. Alors les syndicats aujourd'hui ne sont pas au fond mécontents de ce mouvement, parce que en janvier prochain, il va y avoir la réforme des retraites, et c'est un moyen aussi pour eux de dire discrètement au pouvoir en place: attention, si vous nous écartez des discussions et des négociations, vous aurez affaire à la foule, aux coordinations et aux collectifs type contrôleurs.
Et est-ce que ce genre de mouvement peut devenir incontrôlable ?
Oui, ils le sont par définition, parce que il n'y a pas de structure hiérarchique, il n'y a pas d'identification des leaders, il n'y a pas de définition des responsabilités. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, là le rapprochement peut se faire. Il y a eu au moment des Gilets jaunes des accidents et même des personnes qui sont mortes, dit-on, en marge des manifestations dans les ronds-points. Les syndicats sont aussi des services d'ordre.
Merci beaucoup Bernard Vivier de l'Institut du Travail, spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'avoir été notre invité dans RTL Midi. On vous rappelle cette principale information, cette fusillade à Paris qui a eu lieu il y a quelques instants. Deux personnes sont décédées. Il y a 4 blessés, dont 2 en urgence absolue. Le tireur, lui, âgé d'une 60aine d'années, a été interpellé. Cela s'est passé dans le 10e arrondissement de la capitale.
La culture, tout de suite après la pause.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, laissez-vous tenter midi.
Nous sommes le 23 décembre. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Vous allez nous donner des conseils pour trouver le bon film à voir en famille durant ces vacances de Noël.
Alors il y a ceux qui sont déjà à l'affiche, qui marchent très bien d'ailleurs, Le Chapeauté 2, Ernest et Célestine ou Le Royaume des Étoiles. Ça c'est si vous aimez l'animation. Si vous préférez les belles histoires bâties, en fait, comme un conte, eh bien je vous conseille Le Petit Piaf de Gérard Jugnot qui sort aujourd'hui. L'histoire d'un gamin de l'île de la Réunion qui veut devenir chanteur et qui va bénéficier des conseils d'un chanteur sur le déclin venu passer quelques jours au soleil en échange d'un ou deux concerts dans un hôtel. Pareil, c'est quelque chose qui existe. À l'écran, Soan Harriman, vous l'avez vu, c'est le vainqueur de la saison 6 de The Voice Kids, et Marc Lavoine, coach lui de The Voice, eh bien tous deux poussent même la chansonnette dans le film. Adaptation d'une chanson traditionnelle écrite d'ailleurs par un réunionnais, puisque le film se passe là-bas. Mon pays, donc, à écouter et à voir dans le film, Le Petit Piaf de Gérard Jugnot, qui joue aussi dans le film d'ailleurs.
C'est donc votre premier film très familial, et c'est vrai que c'est un moment où on aime aller au cinéma, précisément en famille, à 3, 4 ou 5. Est-ce que vous auriez un autre film en magasin, Stéphane?
Ça s'appelle Tempête, signé Christian Duguay. C'est le monsieur qui avait fait Japlou il y a quelques temps. Ça, c'est en salle depuis ce mercredi aussi. Le destin de Zoé, petite fille née dans un haras, qui a un rêve. Elle veut devenir jockey. Malheureusement, un accident va briser ses jambes et ce rêve, à moins que, la suite à vous de la découvrir, dans ce très joli film où on retrouve aussi dans le rôle des parents un duo de cinéma inédit, Mélanie Laurent, Pio Marmaille. Tous deux ont dû avoir une condition sportive d'athlète. Elle, pour la natation, lui, pour la course de chevaux en sulky.
C'est vrai que la sensation de vitesse, quand on fait des courses à 12 dans les virages, que ça se touche, que ça s'entrechoque, que tu as le souffle du cheval derrière toi qui te crache dans l'oreille, enfin tu vois, il y a une espèce de tension quand tu es à 60 km/h. Waouh, j'ai en termes d'adrénaline, c'est un espèce de kick de dingue, quoi. C'est-à-dire que moi, je, quand on a fait la séquence du Grand Prix d'Amérique, j'avais complètement oublié que je tournais un film. J'étais en train de gagner le Grand Prix d'Amérique.
Alors, super content d'ailleurs.
Ah mais j'étais hystérique. Non mais j'étais hystérique comme un enfant. Mais en même temps, en ayant conscience du risque, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Mais moi, j'ai trouvé ça excitant, mais vraiment hyper excitant. Et c'est une fierté aussi, je pense, pour moi, d'avoir fait ça.
Dans mon personnage, elle est censée être ancienne championne de natation. Et moi, c'était ma grande phobie, l'eau. Et donc, du coup, pendant que eux, ils étaient à cheval trois fois par semaine, moi, j'étais dans l'eau trois fois par semaine. Donc, en fait, à l'écran, ça, c'est normal de voir quelqu'un qui plonge. Mais pour moi, c'était le bout du monde. Donc, du coup, on a eu quand même chacun un avant et un après ce tournage. Je suis bien contente d'avoir dépassé ces peurs-là, quoi.
Voilà donc pour Tempête, Stéphane, qui sort aujourd'hui au cinéma. Ouais. Vous avez aussi regardé du côté des plateformes et vous avez eu un coup de cœur pour Pinocchio de Guillermo del Toro.
Sublime film d'animation, vraiment, qui utilise des marionnettes animées image par image, boulot d'artisan, d'orfèvre, qui redonne vie au conte de Carlo Collodi, publié en 1840, maintes fois adapté jusqu'ici. On se souvient évidemment, et entre autres, des versions de Disney ou de Comencini. L'histoire, là, cette fois, est plus contemporaine. Elle se situe dans l'Italie de Mussolini, mais on garde en fait ce principe du petit pantin de bois qui va s'éveiller à la vie et de son papa ébéniste, Geppetto. Les images sont absolument superbes. Je vous mets au défi de ne pas verser une larmichette dans le dernier quart d'heure. Et côté musique, figurez-vous que c'est le français Alexandre Desplat qui signe la partition, mais aussi les chansons du film. Il retrouve Guillermo del Toro, avec qui il avait déjà travaillé sur La Forme de l'eau et remporté son deuxième Oscar en 2018.
Ce qui est génial avec Guillermo, c'est qu'il aime la musique de film et il aime que la musique de ses films soit différente, soit audacieuse, soit émouvante. Il n'y a pas d'instrument en cuivre dans le film. Dans la partition, c'est qu'un orchestre en bois. Les percussions en bois, le piano, la harpe, les mandolines, les guitares, etc. Et ça aussi donne un son curieux, une couleur un petit peu différente à la partition.
Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell.
Ciao papa, titre composé donc par Alexandre Desplat, nommé aux Golden Globes du 10 janvier prochain. Dans la catégorie meilleure chanson, le français étant aussi nommé dans celle de la meilleure musique, le film Pinocchio, donc ça c'est pour les plateformes, c'est disponible depuis quelques jours déjà sur Netflix.
Merci beaucoup Stéphane.
Dans un instant, évidemment, nous allons revenir sur ce drame dans Paris avec Cindy Hubert. Avec Cindy Hubert, on l'a appris il y a quelques minutes, un homme a ouvert le feu dans le centre de Paris. 2 morts, 2 blessés en urgence absolue. On sera également avec les auditeurs, mais évidemment, les prochaines minutes sont contaminées, si j'ose dire, par ce drame abominable. À tout de suite.
RTL Midi. Une info vous intéresse ? Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.
Il est 12h59.